Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Sous un soleil de plomb, des milliers de femmes ont marché hier à Kinshasa pour dire non à la guerre et réclamer la cessation des hostilités à l'est du pays. Initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Objectif visé, dénoncer le silence complice de la communauté internationale tout en condamnant pour la énième fois l'agression de la RDC par le Rwanda. Procès Salomon Kalonda. Les défenseurs des droits de l'homme se disent préoccupés par la dégradation de la santé du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Ils l'ont fait savoir hier à Radio Kapi. Malgré le rapport médical attestant l'incapacité du prévenu à comparaître, la cour militaire a de nouveau rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire. Madame, Messieurs, bonjour. Des femmes dans les rues de Kinshasa pour dire non à la guerre et réclamer la cessation des hostilités à l'est du pays. Hier mercredi, à l'initiative de la ministre du Genre, Famille et Enfants, des milliers de femmes issues des mouvements et associations féminines, fonctionnaires de l'État et autres activistes et défenseurs des droits des femmes ont battu le pavé. Selon la ministre Mireille Massangou, cette marche visait à dénoncer le silence complice de la communauté internationale tout en condamnant pour la énième fois l'agression de la RDC par le Rwanda via la rébellion du M23. Tout de noir vêtu, elle scandait des slogans tels que « Le Congo restera un et indivisible ». C'est un reportage de Jean-Désiré Kanyama.
Tout d'abord, une courte prière de circonstance, vite transformée en revendication multiforme. Une question des morts en République démocratique du Congo. Stop à la guerre, stop au génocide, non à la balkanisation. Le cortège s'ébranle sur le boulevard du 30 juin. Trois de ces quatre bandes sont prises d'assaut par des milliers de femmes. Direction Palais de la Nation. Après près d'une heure de marche sous un soleil de plomb, un mémorandum est déposé à l'intention du président de la République. Mireille Massangou Bibi Muloko est la ministre du Genre, Famille et Enfants.
Fustigeons la complicité de la communauté internationale pour s'être rangée aux côtés de nos oppresseurs et leur politique immorale de soutien à nos agresseurs.
Il faut monter d'autres stratégies, pense Patricia Maïcha, présidente de la Coalition nationale des femmes leaders pour la parité.
Nous avons initié des sensibilisations de la population. La prise en charge, ça veut dire que la population doit dénoncer l'ennemi, doit être vigilante. La population doit aussi contribuer pour la paix.
Quelques hommes ont accompagné les femmes dans cette marche.
Nous avons dit, nous allons marcher pour soutenir nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos mères.
Il faut noter que cette marche a été encadrée par les éléments de la police nationale congolaise.
Marche aussi en Ituri pour soutenir l'armée dans la guerre qu'elle mène contre les rebelles du M23 et leur soutien rwandais. Une centaine d'étudiants des différentes institutions supérieures et universitaires de Bunia ont marché pacifiquement dans ce sens le mardi. D'après la représentation des étudiants du Congo, REC, section de l'Ituri qui a initié cette marche, l'objectif était aussi de compatir avec les victimes des atrocités des groupes armés dans l'est de la RDC. Dans leur mémorandum remis au maire de Bunia, les manifestants dénoncent les conséquences de cette guerre, dont le viol, enlèvement et destruction des villages. Jonas Ringwegi, représentant des étudiants en Ituri, en parle au micro de Dieu Merci Bokota.
Vous savez vous-même que notre pays est en train de traverser une situation sécuritaire dégradée. Nous avons voulu, par cette activité, apporter notre soutien aux FARDC, aux chefs de l'État et aux institutions publiques du pays pour que, et à leur niveau, on puisse continuer à œuvrer pour l'intérêt général et sauvegarder la souveraineté de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais notre soutien était pour toute la population de l'Est. Il n'y a pas que seulement le M23 qui œuvre, mais il y a aussi les milices qui sont dans notre pays, surtout à la partie Est. Et c'est pourquoi nous avons voulu apporter notre soutien à la population de l'Est du pays pour qu'ils sachent que nous aussi, en tant que couche intellectuelle, nous sommes en train de soutenir les institutions, en train de soutenir notre FARDC, afin qu'elles puissent jouer leur rôle correctement, de protéger la population avec leurs biens et de sauvegarder l'intégrité nationale.
Entre-temps, sur le terrain des opérations au Nord Kivu, en début de soirée d'hier, les armes se sont tues aux alentours de la cité de Chacha après des combats qui ont opposé l'armée aux rebelles dans la matinée sur les collines surplombant cette cité et Bweremana. C'est précisément dans le groupement de Mfunishanga, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. Des sources de la société civile locale à Sake indiquent aussi que la cité est quasiment vide après la psychose qui a gagné les habitants dans la soirée de mardi. L'armée maintient ses positions alors que les rebelles se seraient retranchés dans d'autres collines avoisinant la cité de Sake. Les mêmes sources renseignent aussi que sur le front nord, dans le territoire de Nyiragongo, aucun combat n'a été signalé depuis 3 jours. Par ailleurs, dans le territoire de Beni, nous sommes toujours au Nord Kivu, les activités socio-économiques sont paralysées depuis 6 jours à Kasindi-Lubiria, une commune frontalière de l'Ouganda. Les maisons de commerce et les marchés restent fermés et les activités transfrontalières sont paralysées. Depuis une semaine, la société civile de Kasindi-Lubiria a décrété une série de journées villes mortes pour dénoncer la recrudescence de l'insécurité dans la région. Cette structure citoyenne réclame la relève des forces de l'ordre présentes depuis plusieurs années à Kasindi-Lubiria, qu'elle accuse d'être à la base de l'insécurité. Rendons-nous en Ituri. Plus de 42 000 enfants en âge scolaire qui ont abandonné le chemin de l'école à la suite des atrocités des groupes armés vont être récupérés. C'est grâce au projet Elimu Kwanza ou Éducation d'abord, lancé le mardi par le vice-gouverneur de l'Ituri. Ce projet est exécuté par le consortium des ONG Conseil danois et NRC dans le but de relever le niveau d'éducation des élèves et permettre la récupération des jeunes qui traînent encore dans des groupes armés. Les autorités provinciale salue cette démarche qui vise à accompagner le programme d'accès à l'éducation pour tous. Ézéchiel Mouzalia.
C'est depuis 6 ans que la province de l'Ituri vit un cycle infernal de violences qui ont obligé de nombreux enfants à abandonner l'école et à rejoindre soit les groupes armés ou les activités minières. Au cours de cette rencontre qui a réuni une cinquantaine d'acteurs humanitaires, différentes facettes des mises en œuvre de ce projet ont été évoquées. Cela en vue de relever les niveaux d'éducation des enfants et récupérer les jeunes à risque dans les territoires de Djougou et Mahagi. Le chef des bureaux de l'ONG Conseil danois pour les réfugiés ajoute que ce projet offre également aux nombreux jeunes à haut risque l'opportunité d'apprendre différents métiers pour leur autonomisation. Innocent Aouba.
Nous sommes dit qu'il était possible, dans des contextes volatiles, de pouvoir mettre en œuvre des projets de développement. Lorsque des projets pourront permettre aux jeunes d'avoir un métier, qu'ils vont se détourner des armes, détourner de la drogue, détourner de tout ce qui n'est pas bon.
Le gouvernement provincial salue cette démarche qui accompagne le programme de la gratuité scolaire mis en place par le président de la République, Jeanne Alacha, représentante du gouverneur à ses assises.
C'est le fruit d'un plaidoyer. Des projets comme ça qui viennent appuyer l'éducation, vraiment, pour la province, c'est un ouf de soulagement.
Ce projet, exécuté en consortium par NRC, Fécondes, AGDEC, va s'étendre sur 3 ans pour un coût global de 9 millions d'euros. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Justice. Procès Salomon Kalunda. La dégradation de la santé du conseiller spécial de Moïse Katumbi continue de préoccuper les défenseurs des droits de l'homme. Cette déclaration est du coordonnateur du consortium des ONG des droits de l'homme hier à Radio Okapi. En effet, mardi, malgré le rapport médical attestant l'incapacité du prévenu à comparaître, la cour militaire a de nouveau rejeté la demande de sa mise en liberté provisoire. À la suite de cette décision, Dieudonné Mushagalusa sollicite l'intervention du chef de l'État pour que la possibilité d'aller se faire soigné à l'étranger soit accordé à Salomon Kalunda. Cela, dit-il, lui permettra de revenir pour mieux assurer sa défense. On écoute Dieudonné Mushagalusa.
La situation de notre compatriote Salomon Idi Kalunda continue à préoccuper les défenseurs des droits humains, d'autant plus que son état de santé se détériore de plus en plus, et cela a été confirmé cette fois-ci par les médecins militaires qui ont confronté les bilans des médecins qui les prennent en charge, et ils ont proposé effectivement que, compte tenu de la chronicité de cette pathologie, qu'il puisse être évacué à l'étranger, d'autant plus que les institutions proposées, notamment les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital HJ, ne sont pas en mesure de pouvoir assurer les suivis ou les complications post-opératoires qui peuvent surgir. Et à ce moment-là, comme nous le savons, que les complications post-opératoires font l'objet toujours de décès dans pareilles circonstances de chirurgie curative. Donc nous en appelons de plus en plus au président de la République en sa qualité de magistrat suprême de pouvoir tirer plus d'attention attention sur un de ses compatriotes qui est dans une situation déplorable qui mérite d'être évacué à l'étranger pour des soins appropriés.
Et puis, nous voulons un gouverneur de province compétent sur tous les plans, responsable, qui tient ses promesses et capable de booster le développement du Kwilu. Déclaration du collectif des jeunes de la province du Kwilu à l'issue d'une table ronde tenue à Kikwit pour discuter des problèmes de la province. À cette occasion, le collectif des jeunes du Kwilu a invité les députés provinciaux qui sont des grands électeurs à ne pas se laisser corrompre lors de l'élection du gouverneur de province, mais à faire un choix judicieux pour le bien du Kwilu. Rigen Bélé, président de ce collectif, le dit au micro de Irène Boma.
Cette fois-ci, tout candidat gouverneur de la province de Kwilu doit tenir une conférence devant la jeunesse, nous expliquer son projet de société. Si ce projet-là est convaincant et que nous, jeunesse, on a trouvé que c'est un monsieur capable, compétent, il sera réaliste, on va demander à nos élus députés provinciaux de lire ce gouverneur. Parce qu'on n'a plus besoin de quelqu'un qui est incompétent à la tête de notre province, vu l'expérience qu'on a. Nous voulons plus de gouverneurs qui viennent pour piller. On a plus besoin de pierres. Mais vous, nos députés lits de la province du Kwilu, si vous osez voter un candidat gouverneur parce que vous avez reçu les 10 000 dollars, vous allez d'abord commencer par démissionner parce que vous avez été lits par nous, la jeunesse. C'est nous qui formons la grande partie des électeurs qui vous ont élus. Nous tenons bon vous expliquer avant. Chers députés, nous, jeunesse de la province, nous vous demandons de lire un gouverneur compétent, capable de défendre la province du Kwilu. Nous voulons un gouverneur responsable, un gouverneur compétent, si tous les plans.
Dans l'actualité aussi, la lutte contre le marché pirate se poursuit dans la ville de Lubumbashi. Cependant, cette opération bat de l'aile car les marchands finissent toujours par reprendre leurs activités là où ils ont été chassés. Ce qui fait dire à certains louchois qu'à ce jour, la capitale du cuivre présente un double visage qui ternit son image, surtout en cette période où le choléra fait des victimes. Jean Gandou.
Quand les autorités se décident de mobiliser la police pour lutter contre le marchand pirate, la ville respire. Les différents couloirs sont dégagés, la circulation des piétons devient fluide. Pour cette ménagère, la lutte doit continuer pour débarrasser la ville de tout ce qui la rend sale.
Je demanderai aux autorités de sensibiliser d'abord les petits marchands et de chercher où les positionner. Comme nous sommes dans une période où il y a les choléras, ce que moi je propose aux autorités, chercher comment assainir la ville de Lubumbashi. La ville est trop sale.
Pour cet autre louchois, la solution serait...
Il faut que les gens partent au marché, parce qu'au marché, on aura les endroits où on doit mettre les immondices. Si on va ici en ville, en cours de route, on laisse les immondices n'importe comment. Ce qu'on est en train d'envoyer, ce sont les gens qui sont en train de chercher l'argent. On leur donne l'argent, ça commence.
Dans ces conditions, difficile d'éradiquer le marché pirate au centre-ville. Sitôt que la traque prend fin, la ville change de visage et retrouve son train-train habituel. Les marchands qui avaient dissimulé leurs marchandises les sortent et les étalent le long des artères, dans les couloirs et à même le sol. Que faire alors pour rendre la ville propre.
Il faut l'éducation de la population. Ça doit être une obligation pour les autorités. Nous avons l'impression comme s'il est fait d'une façon ponctuelle.
Par manque de poubelles, ces marchands jettent les immondices un peu partout, rendant du coup la ville très sale. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, tous les ateliers de menuiserie sont en grève depuis mardi dans la ville de Butembo. Les grévistes disent répondre au mot d'ordre de la mutualité locale des menuisiers, appelant à 4 jours de débrayage pour protester contre l'incendie d'au moins 16 ateliers de menuiserie en moins de 24 heures à Butembo. Cette structure exige des enquêtes. Gréviste Salomo.
Le dernier cas d'incendie est intervenu dans la nuit de lundi à mardi dernier, lorsque 4 ateliers de menuiserie ont pris feu sur avenue Bassoa dans la commune de Kimemi de Butembo. 2 jours plus tôt, 12 autres ateliers avaient été incendiés au quartier Vungi dans la commune de Moussoussa. De meubles, plages et autres matériels estimés à des milliers de dollars ont été consumés par les feux. Certaines sources avancent des courts-circuits électriques comme cause. Une version rejetée par la mutualité des menuisiers de Butembo qui appelle à l'ouverture d'une enquête. L'un de ses membres explique sous anonymat.
On est touché par la situation. Alors nous sommes comme ça perplexes. Il nous manque ce qui peut être derrière une telle situation. Si on parle du courant électrique, on ne croit plus. Presque 4 ans comme ça, travaillant avec le courant électrique, chose aussi regrettable, de telles choses, c'est fou la nuit. Pourquoi pas la journée? Et quand nous quittons le travail, nous éteignons tout. Le courant ne fonctionne plus la nuit dans certains ateliers. La situation est tout à fait anormale, on peut dire cela.
Contactez le commissaire supérieur principal Mouaba Ekiteli Roger, maire de Butembo, annonce l'ouverture d'une enquête. En attendant, plusieurs jeunes qui travaillent dans ces ateliers de menuiserie incendiés sont contraints au chômage forcé. Beni, Grévis Salomon, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le Sénégal reste plongé dans la crise ce jeudi 15 février, ce au lendemain d'un conseil des ministres durant lequel le président Macky Sall n'a annoncé aucun geste d'apaisement malgré les appels pressants dans le pays comme à l'étranger. Le dirigeant sénégalais fait face aux exhortations d'importants partenaires internationaux ainsi que de l'opposition et de la société civile à renoncer au report au 15 décembre de l'élection initialement prévue le 25 février 2024. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.